Martin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité est-il du genre à prendre des mauvaises résolutions? Éminence cathodique, égérie du Beaujolais, éternelle figure de la vie littéraire, il fait paraître après-demain un nouveau livre, un éloge du grand âge, plein de bon sens et de malice. Ça s'appelle « Mais la vie continue » et encore heureux. Bonjour Bernard Pivot.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors je vous souhaite la plus belle des années, mais rassurez-moi, quelle mauvaise résolution est-ce que vous pourriez prendre ce matin?
Eh bien, alors d'abord, je te souhaite une très bonne année à vos auditeurs, de Boomerang. Et il m'arrive de prendre des... Par exemple, je me dis, oh ben, arrête d'employer des mots un peu vulgaires, un peu familiers, un peu argotiques. Arrête. Puis je m'aperçois au bout d'un moment que c'est stupide, c'est une très mauvaise résolution.
Parce que vous adorez les gros mots, Bernard. Il se trouve qu'à la fin de votre livre, il y a quand même 7 engagements, dont celui de ne pas se plaindre, d'être toujours de bonne humeur, et puis de rêver aussi. Quel rêveur est-ce que vous êtes, vous au juste?
Eh bien, je suis rêveur depuis que je ne travaille plus. L'intérêt quand on est retraité, quand on a du temps devant soi, c'est de s'asseoir de temps en temps, mais de rêver à ceci ou à cela, à n'importe quoi. Et c'est un plaisir inouï qu'on n'a pas quand on a une vie familiale, une vie professionnelle. On n'a pas le temps, on n'a jamais le temps de rêver.
C'est intéressant.
Et alors, est-ce que je médite, est-ce que je philosophe, et que je sais pas, mais je suis plutôt un rêveur des confins. Voilà.
Est-ce à dire, Bernard Pivot, qu'il n'y a pas de place dans le monde actuel pour les rêveurs?
Pas trop beaucoup de place, non, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de place, et y compris pour ceux qui malheureusement n'ont pas de boulot. Est-ce qu'on rêve davantage quand on n'a pas de boulot? Je crains que non. Je pense que le rêve appartient à ceux qui ont l'esprit libre, à ceux qui ont une sorte de disponibilité du temps qui fait qu'ils... Sinon, si vous avez des graves problèmes, si vous êtes malade, si vous êtes chômeur, on peut pas rêver.
C'est la question que j'allais vous poser. Comment fait-on pour s'autoriser à rêver quand on est sans arrêt rattrapé par une actualité inquiétante, pour ne pas dire angoissante?
Ben oui, c'est ça. Est-ce que, ben, par exemple, je ne rêve pas en entendant les bulletins d'information. Hein. Ça, c'est.
Ben oui.
Tiens, voilà un truc de vieux. Bulletin d'information. On ne dit plus ça. On ne dit plus. C'est incroyable. Hein,
vous pouvez le dire dans cette émission. Moi, je vous l'autorise.
Le bulletin d'information. Voilà, c'est un vieux truc, ça.
Quand vous pensez, par exemple, au désarroi du secteur culturel, notamment, dont certains pensent qu'il ne se relèvera pas de la crise qu'il traverse depuis de longs mois, qu'est-ce que vous vous dites, Bernard?
Ben, je me dis que c'est un peu vrai, que. Je crains surtout, c'est que certaines personnes ayant pris la mauvaise habitude de ne plus aller au cinéma, au théâtre, voir des expositions, évidemment, restent chez eux à regarder les séries de Netflix, etc., en se disant, oh, finalement, bon, pourquoi sortir, pourquoi aller dépenser de l'argent pour avoir des expositions au cinéma, alors que nous avons tout à la maison.
Vous regardez Netflix, vous?
Je crains la paresse, voilà.
Vous regardez pas Netflix, vous?
Non.
Jamais?
Non, jamais.
Il y a des bons documentaires parfois.
Non, mais je ne dis pas le contraire, mais je ne peux pas tout faire. J'ai 85 ans, Augustin, et donc j'ai beaucoup de temps, mais je préfère finalement, vous voyez, rêver pendant une demi-heure plutôt que de regarder une série sur Netflix.
Mais cette inquiétude dont vous témoignez, elle est intéressante, parce que derrière votre optimisme affiché, on sent quand même poindre une profonde anxiété. C'est en tout cas ce que laissent suggérer certaines pages de votre livre. Dans quelle mesure vos angoisses se sont-elles aggravées, Bernard Pivot, avec les années?
Alors, elle s'angoisse à cause de la santé. À cause de la santé, parce que on ne pense pas à sa santé quand on est en pleine forme, dans l'éclat de l'âge. Tandis que là, d'un seul coup, à la moindre courbature, à la moindre insomnie, à la moindre douleur, etc., on se dit, voilà, c'est quoi, etc. Et moi, je ne le fais pas, mais il y a certains qui font sur Internet pour se dire, c'est quoi cette douleur que j'ai entre la 7e et la 8e vertèbre, etc. On est quand même, quand on est vieux, on a été obsédé quand même par sa santé. Et d'ailleurs, vous avez remarqué qu'il y a 5 chapitres sur la santé, oui, dans le livre.
Quand est-ce que vous avez commencé à penser à la mort?
J'ai toujours un peu pensé à la mort, parce que, surtout quand mon meilleur ami est mort, j'avais 40 ans, et lui en avait 20 de plus. Donc j'ai pensé à la mort, mais... Plus on avance en âge, plus on se dirige vers l'acte final, et plus on pense à la mort.
Et en quoi ça vous fragilise?
ben, ça fragilise parce que c'est pas très agréable de penser à la disparition, à la fin. Mais ce qui est le plus grave, c'est quand même de penser à la, comment dire, à l'état final, c'est-à-dire que aux graves infirmités des dernières années de la vie, etc. Quand je vois les images dans les EHPAD, moi je suis chaque fois effondré, ça me terrifie de voir des femmes effondrées dans des fauteuils, des hommes, etc., qui ne peuvent plus parler. C'est terrible, ça c'est vraiment insupportable.
Alors la force, Bernard Pivot, vous la trouvez où?
La force? La force en moi, je la trouve dans les livres, dans la lecture, dans la famille.
Chez les autres aussi.
Chez les autres, bien entendu.
Parce que ce que vous racontez dans Mais la vie continue, qui n'est pas une autobiographie, hein, je le précise, c'est quand même la valeur et l'importance que vous avez toujours accordée aux rencontres. Les autres, en fin de compte, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté?
Ils vous apportent tout. Si vous n'êtes pas attentif aux autres, vous perdez votre vie. Attendez, j'étais attentif à Simenon, à Lévi-Strauss, à Albert Cohen, à Marguerite Yourcenar. Maintenant, je suis attentif à Augustin Rappenard. On est attentif à tout, à vos amis.
Et ça a toujours été quelque chose de naturel chez vous.
Oui, bien sûr, à vos enfants. Et quand on est attentif aux autres, on leur pose des questions. L'essentiel, c'est de poser des questions. Alors vous êtes un professionnel de la question, mais moi, dans ma vie privé, j'ai adoré poser des questions.
Ah, c'est vrai.
Et j'ai emmerdé des parents, j'ai emmerdé des amis en leur posant des questions. Indiscret, au bout d'un moment, ils disent « Arrête de me poser des questions, arrête !»
Entretenir la curiosité, qui est un autre des engagements que vous énoncez dans ce livre, ça passe par la question sans cesse.
Oui, sans cesse. Et finalement, je suis devenu journaliste parce que j'aimais poser des questions.
Et pourtant, vous semblez convenir qu'avec le temps, vous vous montrez de plus en plus sélectif dans le choix de vos curiosités.
Oui, ben oui, parce qu'on peut pas tout. Avec l'âge, il faut savoir trier, choisir ses centres d'intérêt.
Oui, vous dites qu'il faut savoir pratiquer le délestage.
Oui, un peu. Il faut savoir se délester de certains sujets sur lesquels, par exemple, la mode. Je m'intéressais beaucoup à la mode, alors que je suis pas du tout gandin, mais pas du tout. Mais pas la mode masculine, la mode féminine. J'adorais regarder les défilés, regarder lire les comptes rendus, les critiques sont souvent des femmes qui font la critique de la nouvelle mode. Et puis là, maintenant, j'ai abandonné. Là, je regarde, je me dis, ça m'intéresse moins. Ça m'intéresse moins. Et puis, je trouve que les commentaires de toutes les dames qui parlent de la mode, ça se ressemble beaucoup. Et de toute façon, elles crient chaque fois au génie.
Il y a des hommes aussi. Mais alors, comment est-ce qu'on se sent, Bernard Pivot, une fois qu'on est délesté? C'est ça la vraie question.
Qu'on est
délesté?
Oh ben, on est délesté de. On est. Mais non, si, on est délesté de sa vie professionnelle. C'est ça qui est important. Alors, on se déleste de certaines entraves, de certaines contraintes, parce qu'on en a marre, on n'en peut plus, puis on a fait le tour du problème, etc. Donc, se délester de certaines préoccupations ou de certains centres d'intérêt, c'est montrer plus d'intérêt pour les thèmes ou les sujets qu'on conserve.
Vous savez qu'il y en a une qui est bien leste dans cette émission, sans doute la connaissez-vous, c'est la culture et son actualité qui a toujours la pauvre un petit peu de plomb dans l'aile. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 4 janvier?
C'est votre livre préféré.
2021, la santé et des bouquins portés par le bel élan de la fin d'année et le succès du prix Goncourt déjà écoulé à plus de 400 000 exemplaires, les libraires s'apprêtent à accueillir la rentrée d'hiver. Au programme, 493 romans, soit 11 de plus que l'année dernière, signe du bon dynamisme du secteur. Et parmi les auteurs les plus attendus, on peut citer l'impériale Marianne Diaye, invitée ce matin de Léa Salamé, mais aussi Yasmina Reza, Mathieu Lindon, Lionel Duroy, Stephen King, Martine Amis ou Graham Swift côté étranger. Vive la rentrée. When you want... Walk on Jerry, le chanteur britannique Jerry Marsden, ancien leader du groupe Jerry and the Pacemakers, s'est éteint hier, âgé de 78 ans. Le musicien était devenu mondialement célèbre pour avoir interprété le classique You'll Never Walk Alone, devenu l'hymne du club de foot de Liverpool, puis d'autres formations européennes. Au début des années 60, Jerry Marsden et son groupe avaient même été considérés comme les rivaux d'un autre groupe originaire de Liverpool, les Beatles. R.I.P. Jerry.
Je peux en avoir encore un peu.
Non, Obélix, non.
Oh, ben ça, c'est pas juste.
Astérix dans les starting blocks. Dans une interview au JDD, le scénariste Jean-Yves Ferry, nouveau père de nos irréductibles Gaulois, a levé hier une partie du voile sur le prochain album d'Astérix. Le 39e titre de la série sortira donc le 21 octobre prochain et nous emmènera vers une destination inédite. Ménageant le suspense, Jean-Yves Ferry a simplement ajouté qu'il ne serait pas question de coronavirus ou d'épidémie, mais qu'on pourra peut-être y trouver une allusion à une potion magique aux faux airs de vaccins. Nous voilà bien.
Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une agréable visite.
2021 dardard, après une année culturelle en dents de scie, les musées français mettent le paquet et beaucoup d'espoir dans les 12 mois qui s'annoncent. Si tout va bien, il y aura notamment l'inauguration de la collection Pinault dans l'ancienne Bourse du Commerce fin janvier, la réouverture de la maison de Victor Hugo à Paris, mais aussi les expos Diva d'Oum Kalthoum à Dalida, à l'Institut du Monde Arabe, Dali, l'énigme sans fin à l'Atelier des Lumières, ou encore Jeff Koons au Mucem de Marseille, on y croit. Et Bernard Pivot, invité de Boomerang ce matin pour Mais la vie continue, ce livre dans lequel Bernard vous explorez les désagréments et les bonheurs du grand âge. Vous est-il déjà arrivé, honnêtement, de penser qu'à un certain âge, la vie s'arrêtait ?
Non. Alors, franchement, non, ça, c'est pas une idée qui m'est venue.
C'est une idée qui vous a rattrapé, alors.
Oui, c'est-à-dire que on peut gâcher sa vie, voilà. Avec le grand âge, on peut d'un seul coup s'apercevoir que qu'on n'a pas peut-être quand on jette un regard sur le passé, se dire bon, j'aurais pu mieux faire, j'aurais pu être plus attentif à ceci.
Ça vous arrive parfois.
Oui, bien sûr, ça m'arrive vis-à-vis de ses enfants. Est-ce que je les ai vraiment bien élevés, est-ce que je leur ai consacré assez de temps ? Et ma réponse est évidemment non. Donc, on a des regrets de ce qu'on aurait pu faire mieux. Mais sur le moment, là, maintenant, non, je vis dans ce moment avec beaucoup de foi, beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité.
Et qu'est-ce que c'est le jeunisme ? Ce mot qui n'est apparu qu'assez récemment, somme toute, que vous employez dans le livre.
Ben non, je le déteste, ce mot. Je déteste ce mot jeunisme. Parce que il confirme qu'il y a un apartheid de l'âge. Mmh. Quand les partisans du jeunisme, finalement, n'aiment pas les vieux. Ils les détestent. L'apartheid de l'âge, ça existe, hein, etc. Et les adeptes du jeunisme, que ce soit dans la société, que ce soit dans l'art, ou que ce soit dans l'industrie ou le commerce, c'est tout à fait détestable.
Oui, c'est cette injonction implicite qui pèse sur les corps, qui pèse sur les pratiques, sur l'existence en général. Est-ce que ça a pu avoir de l'emprise sur vous, Bernard Pivot ?
Non, pas du tout. Non, pas. Non,
quand est-ce que vous vous êtes senti vieux pour la première fois ?
Eh bien, le jour de mes 80 ans.
Ah bon ?
Le jour de mes 80 ans. À 70 ans, finalement, j'ai beaucoup fait de choses entre 70 et 80 ans. Mais à 80 ans, ça m'a fiché un coup. Je dis, j'entre dans le grand âge. Ah. Le grand âge n'a pas d'âge. On peut entrer dans le grand âge à 50 ans parce que...
Bah, c'est-à-dire qu'à chaque décennie, ça fout un coup quand même.
Ouais. Oui, ouais. À 80 ans, vous vous dites quand même, je vais vers le plus grave. Je vais vers la tragédie.
Oui.
Je me dirige peu à peu vers la tragédie. Donc, quand vous avez 80 ans, d'un seul coup, vous n'êtes plus tout à fait le même, et vous êtes quand même, vous restez le même, mais vous perdez des certitudes.
Et à vous entendre, c'est très intéressant. Cette sensation concerne peut-être en premier lieu le corps, sujet que vous abordez très frontalement. Qu'est-ce que c'est un corps pour vous, Bernard Pivot ? Vous qui avez quand même derrière vous un passé de sportif.
Eh bien, le corps, c'est ce qui vous rappelle jour et nuit que vous êtes sur la mauvaise pente. C'est-à-dire, vous avez les courbatures.
Alors, c'est une malédiction.
Non, c'est pas une malédiction, c'est comme ça, mais c'est normal. Mais à la moindre alerte, vous prenez pas peur, mais vous simplement vous vous interrogez sur toutes les douleurs. Il y en a des douleurs après 80 ans. Il y en a des douleurs. Chaque fois vous essayez de trouver une explication, de trouver un raisonnement. Alors moi j'ai pas recours à Internet, mais il y a beaucoup de gens qui... Oui. À la moindre petite douleur, il recourt à Internet.
Mais quand est-ce que votre corps vous rend heureux ?
Mon corps me rend heureux, oui. Attendez, la première chose, qui est le premier avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que je vis encore.
Oui.
Attendez, Augustin, je vis encore.
Ben oui, vous êtes devant moi.
Mais c'est le premier privilège. C'est le premier privilège. J'ai 85 ans et je vis encore. Or, Il y en a beaucoup qui sont partis, des amis, des gens de la famille, ils sont partis avant moi. Et moi, j'ai la chance, à 85 ans, d'être toujours là, et je suis devant Augustin Trapenard à France Inter. C'est une chance extraordinaire. Donc je vis, mais je sais que cette vie est maintenant limitée et qu'elle sera probablement douloureuse.
Heureux ceux qui baisent avec la régularité des vieux pratiquants. Ce verbe baiser, je l'écris, mais ne le prononce plus devant mes amis. Je vois bien qu'il leur déplaît, qu'il les incommode. Faire l'amour est l'expression adéquate. Certains préfèrent l'emploi d'expressions qui dévalorisent l'acte sexuel, comme faire la bête à deux dos, connaître au sens biblique, ou le solennel, accomplir l'acte de chair. Le mieux, somme toute, est honorer. Il ne faut jamais s'arrêter de faire l'amour. S'arrête-t-on de boire, de manger, de parler, de lire, de marcher, de conduire? Non. Pourquoi donc s'arrêter de baiser? L'homme a d'autant plus de chances de copuler dans son grand âge que ce fut durant toute sa vie un acte familier et toujours très apprécié de sa partenaire comme de lui-même. En somme, il continue sur sa lancée, il touche les dividendes de sa longue expérience. Bien sûr, il honore moins souvent, mais avec une attention, une patience, une imagination dont il était dépourvu dans sa jeunesse et qui forme ce qu'on peut appeler, après 6 décennies de tagada, du savoir jeunesse et qui forme, pardon, du savoir-faire tagada. Bernard.
Tagada, oui.
Et je ne connaissais pas l'expression.
Ah, mais oui, oh, je suis étonné.
Ben, je connaissais crac-crac et plic-ploc à la limite, mais pas tagada.
Ah, tagada, c'est faire l'amour. Voilà. Oh là, on disait, ça se dit plus aujourd'hui, mais on disait, oh là là, dans le tagada, il est fort. Hein, oh là là.
C'est intéressant parce que quand est-ce que vous avez compris que dans certains domaines, on se bonifiait avec le temps? Parce que c'est ça que vous racontez.
Ben oui, dans l'amour, je pense qu'on fait mieux l'amour après un certain temps. On est un peu maladroit quand on est jeune, non?
Écoutez, ne me regardez pas comme ça. Hein. Là, je ne suis plus si jeune.
Mais enfin, là, je suis très heureux que vous ayez lu ce passage parce que c'est un tabou. Hein, c'est un tabou, l'amour après 80 ans.
Oui, comment vous l'expliquez, ça?
Ben, je sais pas, parce que l'amour, c'est réservé, au fond, au corps jeune, au corps vaillant, au corps, la beauté des corps qui font l'amour. Tandis que les vieux, évidemment, c'est quand même moins agréable, c'est moins. Et je pense qu'un régime autoritaire pourrait interdire aux vieux de faire l'amour, parce que trouvant que, d'abord, c'est pas bénéfique, ça ne sert à rien, ils vont pas faire d'enfants,
Vous imaginez la loi liberticide?
Ben oui, mais je suis étonné d'ailleurs que des régimes autoritaires n'interdisent pas les vieux de faire la.
Et vous, ça ne vous gêne pas d'en parler, de le dire, de le faire, Bernard Pivot?
Voilà, vous avez lu le passage, ça suffit.
Qu'est-ce qui vous gêne dans la vie?
Ce qui me gêne?
Oui.
Oh ben, je sais pas, la bêtise.
Quels sont les sujets que vous abordez avec une certaine réticence?
Ben, la politique, sûrement. La politique, parce que je suis très incertain. Je crois pas toujours à ce qu'on me dit. Qu'est-ce que je n'aime pas beaucoup aborder? Je sais pas. En tout cas, pas l'amour, ça c'est sûr.
Il y a des questions que vous ne posez pas?
Que je ne me pose pas?
Que vous ne posez pas aux gens autour?
Non.
Jamais?
Non, bah si, je vais pas leur dire, dis donc, quand c'est la dernière fois que tu as fait l'amour,
je vais pas lui poser. Je viens juste de vous la poser, Bernard. Non, pas comme ça. J'aurais pas osé.
Non, c'est une. Il y a des questions. Moi, j'ai souvent posé des questions indiscrètes, des questions qui vont un petit peu trop loin, mais pas des questions vulgaires, voilà.
Le temps, qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui?
Bah, le temps, il est limité. Et le paradoxe est celui-ci, c'est que quand vous êtes jeune, vous avez à long terme beaucoup de temps devant vous, vous êtes impatient, vous ne voulez pas perdre votre temps. Et aujourd'hui, alors que j'ai très peu de temps devant moi, à court terme, j'ai tout mon temps.
Donc, contrairement à ce que disait Brassens, le temps fait quelque chose à l'affaire.
Oui, c'est vrai.
Bah, Brassens, que vous aimez beaucoup. Oui. Je le sais, alors on va l'écouter, cette chanson de 1961 que j'aurais pu lancer autrement. France Inter, Pivot, Boomerang.
Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire quand on est con. On est con. Quand
les 20 ans qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons, qui ne le niaient pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons, qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Et 20 ans qu'on soit grand-père, quand on est con, entre vous plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant, petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan, petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
C'est-à-dire qu'on est quelque part entre le dandy 18e, la vedette d'un album d'Astérix le Gaulois et la chouette de Merlin l'Enchanteur, le sourcil Archimède fourni à souhait, la lunette enchanteresse, la lèvre en cœur, le cheveu pétillant et le verbe haut, tout en bleu du masque au pull ce matin. Bernard Pivot, invité de Boomerang, pour Mais la vie continue, ce livre où un dénommé Guillaume Jurus partage ses réflexions tantôt pragmatiques, tantôt philosophiques sur la vieillesse. Pour quelle raison est-ce que vous avez fait le choix de vous retrancher derrière un personnage, Bernard?
Parce que j'ai une sorte de pudeur à me dire moi. Je trouve que c'est mieux comme ça de... Alors ce personnage me ressemble beaucoup, évidemment. Il est éditeur, il est pas très loin de ce que... Il est dans les livres, quoi, dans la littérature. Mais j'aime bien comme ça, à la fois prendre un personnage, lui attribuer des choses que j'ai vécues, des idées qui sont les miennes, et puis en même temps, quand même, avoir une certaine distance avec moi.
Voilà. En fait, vous préférez faire parler les autres, tout
oui,
simplement.
Bien sûr. Oui, pas là. Non, il ne s'agit pas de faire parler les autres. Simplement, c'est une manière de, c'est une manière un petit peu hypocrite. Hein, je dois bien le dire. C'est une manière un peu hypocrite de parler de moi.
Vous êtes hypocrite, vous?
Un petit peu, oui, bien sûr. Il faut un peu d'hypocrisie dans la vie. Vous le savez bien.
Vous qui avez passé une grande partie de votre vie à lire et à poser des questions, qu'est-ce que c'est une bonne question?
Une bonne question, c'est ce qui permet à celui à qui elle est posée d'exprimer quelque chose à quoi il n'avait pas pensé.
De produire du sens, en fait.
De produire du sens, simplement se dire, tiens, il m'a posé une question. D'ailleurs, très souvent, les gens disent, ah, c'est une bonne question. La seule fois, sa question les surprend. Et ils se donnent quelques secondes de plus pour pouvoir y répondre d'une manière exacte.
Il y a des mauvaises questions aussi.
Oui, bien sûr qu'il y a des mauvaises questions. Par exemple, alors... Monsieur Pivot, quelle est votre actualité actuellement? D'abord, ils font appeler un asthme, actualité actuellement. Et puis c'est stupide comme question.
Vous voulez dire que vous n'avez pas d'actualité?
Ben si, j'ai une actualité, mais justement, l'intéressant, c'est de pas poser cette question, mais de trouver l'actualité du personnage que vous interviewez à travers d'autres questions que celle-ci.
Dans cette vie consacrée à la lecture, au livre, à l'interrogation, quelle place est-ce que vous donnez à l'écriture?
Oh ben, essentiel, parce que sans écriture, il n'y a pas de livre. Mmh. Donc, c'est chaque fois, d'ailleurs, très souvent dans mes rêveries, je pense à des écrivains qui sont en train d'écrire, qui sont devant leur ordinateur, ou bien qui sont avec leur plume. D'ailleurs, mes rêves ont changé. Quand je rêvais, parce que je rêvais même quand du temps d'apostrophe, et j'imaginais les écrivains en train d'écrire avec leur stylo, quoi, avec, mmh, etc. Et maintenant, ils sont devant leur ordinateur. Donc, le rêve change. Mais la finalité du rêve est la même.
Mais vous avez fini par le savoir, pourquoi vous écrivez?
J'écris vraiment par plaisir.
Vous dites souvent que vous n'êtes pas écrivain.
Non, je ne suis pas écrivain, je suis un journaliste qui écrit des livres, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Alors qu'est-ce que serait un écrivain?
Un écrivain, c'est celui qui consacre sa vie à l'écriture, écoutez, qui passe sa vie à écrire. Attends, parliez de Marine Diaye il y a une seconde, elle passe sa vie à écrire.
Vous avez été l'un des témoins privilégiés de l'évolution du statut de l'écrivain et de l'artiste ces 50 dernières années, Bernard. Est-ce qu'on les écoute encore, les écrivains ?
Moins. Il y a les intellectuels qu'on entend beaucoup, qui sont interviewés sur toutes les radios, télévisions et dans les journaux. Mais l'écrivain lui-même n'a plus la place qu'il avait il y a encore 50 ou 60 ans.
Et comment ça s'explique, ça ?
Ça s'explique parce que il y avait Sartre, il y avait Camus, il y avait Mauriac, et il y avait...
Des écrivains qui étaient aussi des penseurs.
Voilà. Et il y avait Raymond Gary, etc. Aujourd'hui, les écrivains, il y a les intellectuels qui s'expriment sur l'actualité, et puis il y a les écrivains qui sont beaucoup plus modestes, à qui on ne donne pas la parole finalement, on ne leur demande pas ce qu'ils pensent sur l'actualité.
Mais j'y pense parce que samedi dernier, dans Télérama, la directrice du Théâtre du Soleil, Ariane Mnouchkine, interpellait le gouvernement quant à la lenteur de sa politique en matière de vaccination. Et on se pose quand même la question, les artistes ont-ils encore de l'influence ? Si tant est qu'ils en aient eu un jour.
Est-ce qu'il y a une influence des écrivains sur le pouvoir politique ? Ça, je ne crois pas.
Non.
Je ne crois pas du tout. Est-ce que les intellectuels ont une certaine influence ? Probable, peut-être, je ne sais pas.
Avez eu, vous, de l'influence ?
Oui. Je me suis toujours considéré, non pas comme un être de pouvoir, mais comme un être d'influence, un homme d'influence, oui. C'est évident qu'à Bouillon de Culture ou à Apostrophe, j'ai eu l'influence sur le choix des livres par le public.
Et à quoi ça a servi ?
Ça a servi à ce que des milliers et des milliers de livres aient été vendus et que des auteurs aient été découverts.
Ça vous a moins servi, vous, que les autres, en fin de compte.
Oui, mais tant mieux. Oui. Attendez, la télévision, elle est faite pour servir les autres, pas pour servir soi-même.
Je le crois aussi.
Oui, bien sûr.
C'est un texte qui parle de vaccins, justement, que vous avez choisi de nous écrire ce matin. On vous écoute ?
Merci. Alors, dans l'échange de lunettes...
Vous faites bien.
Voilà. Naguère, quand un jeune homme se voyait refuser un avantage, il s'exclamait indigné « Oh, mais je suis majeur et vacciné !» Cette expression n'est plus employée. Elle signifiait que le jeune homme s'estimait assez grand pour prendre ses responsabilités, car il avait la majorité et tous ses vaccins. Peut-être l'expression « être vacciné contre » est-elle moins désuète. Depuis que sa petite amie est partie avec un autre, il se dit « vacciné contre l'amour ». C'est-à-dire que sa déception sentimentale est telle qu'il est pour le moment immunisé contre le virus de l'amour. Les scientifiques n'ont pas encore trouvé les vaccins contre le complotisme, contre la dérision, contre la haine, contre la connerie. Dans un sondage national, à la question « vous feriez-vous vacciner contre la connerie ?», il n'y aurait pas 100% de « oui ». Parce que les cons voteraient non. À la question « Vous feriez-vous vacciner contre la mort ?», il n'y aurait pas non plus 100% de « oui », parce que certains répondraient non à cause des supposés effets secondaires du vaccin contre la mort.
Bernard Pivot, au fond, contre quoi n'êtes-vous pas vacciné ? Qu'est-ce qui vous atteindra toujours, vous ?
La curiosité, vous savez. Vous pouvez... Moi, j'ai la chance, finalement, c'est une chance d'avoir été journaliste et d'avoir été toujours curieux de la vie. Et je pense qu'aujourd'hui, ma chance, en tant que vieil homme, c'est de continuer d'être curieux. Et j'invite absolument tous les personnes âgées, qui sont plus âgées ou moins âgées que moi, peu importe, à continuer à manifester de la curiosité pour toutes les choses du monde, pour Augustin Trapenard, Macron, pour...
Ah bah, merci.
Pour,
en avez d'autres, vous avez comme ça, Bernard ? Vous passez un bon moment. Contre la Covid-19, vous allez vous faire vacciner, vous ?
Oui, bien sûr.
Ça vous fait pas peur ?
Après ce papier, cette question.
C'est ce que je me suis dit, mais bon, c'est toujours bien d'avoir une réponse. Ça vous fait pas peur ?
Non.
Non ?
Non.
Qu'est-ce qui vous fait peur, vous ?
La mort.
C'est une bonne réponse. Ça sera la dernière. Merci infiniment, Bernard, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Merci pour votre parole, qui est toujours belle. Je rappelle que Mais la vie continue, votre nouveau livre sort après-demain aux éditions Albin Michel. Tout de suite, les médias.